Et c'est pas mon premier culte aujourd'hui, mais c'est la première fois qu'on ressent ça. On n'a pas eu tant de le prière avant dans les autres cultes. Ce qu'on vient de vivre là, cette intensité dans la prière, il n'y a que là qu'on vient de le vivre. C'est étonnant, hein? Mais Dieu sait, et en fonction des personnes qui sont là, et puisque c'est vous, Dieu oriente le culte d'une certaine façon. Nous, en fait, on suit le mouvement, mais c'est le Saint-Esprit qui dirige. Et là, il y avait quelque chose dans la prière qu'il n'y avait pas dans les autres cultes. Une vérité, une intensité qu'il n'y avait pas ailleurs. Et je suis spectateur et émerveillé de la présence de Dieu. Quand ça ne va pas bien, lisez un psaume. Quand ça va bien, lisez un psaume. Et quand c'est entre les deux, lisez un psaume aussi, comme ça vous êtes sûr. On va lire le psaume premier. Le thème de ce message cet après-midi, c'est enraciné. Enraciné. Et c'est le psaume 1, verset 1. Je suis posé la question, des fois, c'est très étonnant. En tant que pasteur, on voit, je te vois, je vous vois, un moment, vivre quelque chose de fort avec Dieu. Et de deux personnes qui sont touchées pendant un culte, pendant une réunion de jeunesse, pendant un moment avec un orateur, ou qui viennent à l'appel et dans lequel il y a une larme qui tombe un moment quelque part, que ce soit un homme ou une femme, de deux personnes qui ont vécu la même expérience au début, il y aura une personne qui est susceptible d'abandonner, de lâcher tout au bout de quelques mois. Ça fait extrêmement mal au cœur. Et puis une autre, il n'y a pas de raison au départ, il n'y avait pas de différence, qui va s'accrocher, qui va tenir bon, qui va faire des changements en profondeur dans sa vie, là où des fois il y a des coupes à faire. Et puis cette personne va commencer à construire sa vie, sa famille avec Dieu. Il y aura des moments faciles, des moments difficiles. La tempête va venir, les vents vont souffler, la pluie va tomber, mais la maison va résister. Et je me dis, mais quelle est la force? Quel est le secret de ces personnes qui tiennent bon jusqu'au bout? Et le psalmiste, avant que Jésus parle de la maison sur le roc, il donne un psaume qui est extraordinaire sur l'importance d'être enraciné. Regardez, on va lire ensemble le psaume. Je vais lire dans la version seconde pour une fois ce psaume extraordinaire. Heureux l'homme, on peut dire heureux la femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme de la paille que le vent dissipe, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Est-ce que vous avez regardé Danse avec les stars? Oh, c'est bon, on a le droit de temps en temps de regarder. Certains, oui, non, mais oui, vous l'avez déjà vu au moins une fois. Bon, mais si vous n'avez pas vu Danse avec les stars, ça vous est peut-être arrivé quand même de faire un tout petit peu de musicologie. Et vous savez, parmi les rythmes, moi, je n'ai pas du tout le rythme dans la peau. Hein. Pas du tout, pas du tout. J'ai fait des années de piano, c'est un échec total. Mais, j'ai quand même retenu quelque chose. C'est que notamment un rythme que j'avais du mal à comprendre, c'est le rythme de la valse. Tac, 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 tac. Vous voyez comment il danse, hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. C'est un rythme tertiaire. C'est très joli, les valses. Vous savez que le psalmiste, quand il a écrit, ils avaient souvent un luth, une harpe, et c'était chanté, il y avait une musique de fond. Et je ne sais pas quelle était, la musique était faite, mais en tout cas, je remarque que dans ce psaume, pour moi, c'est comme une valse de celui qui est fidèle à Dieu, qui est enraciné en Dieu. À chaque fois, il y a trois choses. Il a fait que des groupes de trois. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que c'est le même mot, méchant, pécheur, moqueur? Non, c'est des mots différents. 1, 2, 3. Selon le conseil, selon la voix, selon la compagnie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est de la musique là-dedans. Et en fait, c'est plus que de la musique, parce que ce qui est en train de dire le psalmiste, si tu veux tenir bon, veille sur tes fréquentations. La seule chose que tu dois retenir de ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, veille sur tes fréquentations. Veille sur les personnes avec lesquelles tu traînes. Parce que c'est pas Dieu n'est pas comme une maman stressée, même si c'est respectable, ou un papa stressé qui dit « Fais pas ça !» Dieu n'est pas comme cette maman que j'ai vue récemment à la télé, qui parce que sa fille faisait un concours de mannequin, il avait 14 ans, la maman, c'est normal, je la comprends très bien, elle disait « Ma fille, touche pas à la drogue, touche pas à la cocaïne, touche pas le sexe, t'es trop jeune, laisse tout, touche pas, ça fais pas. » Il y avait déjà le catalogue la redoute de tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pas ce que dit Dieu. Dieu, c'est plus que de la morale. Dieu, il vient vers toi et il dit « Echer » en hébreu. Que la bénédiction, en français, on a traduit par « heureux ». Il y a quelque chose de Dieu qui te rend une joie si tu évites de marcher selon le conseil des méchants, de t'arrêter sur la voie des pécheurs et de ne pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. C'est qui tes fréquentations ? C'est qui les personnes avec lesquelles tu cherches à faire ami-ami ? Quelles sont ces personnes-là ? Les méchants, en hébreu, c'est le mot « racha » qui veut dire « ceux qui commettent des crimes, des délits ». Alors regardez, au début je me suis dit « c'est grave quand même, ils marchent ». Mais en fait non, c'est-à-dire que tu marches dans ta vie chrétienne, mais tout en étant chrétien, en même temps, tu écoutes le conseil de ceux qui commettent des crimes et des délits. Tu ne fais pas exactement ce qu'ils te disent, mais tu prends conseil auprès de gens tordus et ça fausse et ça influence ta façon de diriger ta vie. Si tu as envie de rédiger des papiers, des documents, un examen, que tu fasses ta feuille d'impôt, etc., tu as toujours des conseillers malins qui vont te dire « Attends, moi je sais comment te faire réussir. » Sans avoir besoin de faire les choses « Non, t'embête pas, tout le monde fait ça, tout le monde bidouille un peu. Tu veux le papier, je vais te dire comment avoir un papier. Tu veux éviter de payer des impôts, je vais te dire comment. Ça marche, les faits. » Et ils vont te donner des conseils. Et la Bible dit, prends pas ces conseils-là. Parce que si à la fin, tu obtiens ce que tu veux, par de mauvaises manières, il n'y aura pas la bénédiction de Dieu là-dedans. Tu auras ton papier, peut-être tu ne payeras pas d'impôts, peut-être les autres diront, waouh, t'as été malin. Et Dieu dirait, t'as fait ça selon le malin. Alors deuxième point, ne t'arrête pas en compagnie, sur la voie, pardon, des pécheurs. Les pécheurs, c'est ceux qui assument le fait de mal faire. Des fois, on a envie juste de s'arrêter quelques instants et de... C'est un peu plus grave que le premier. Le premier, il marche selon le conseil, mais l'autre, il s'arrête carrément pour parler, pour prendre du temps avec les pécheurs. Et Dieu dit, attention à ça. Attention à ne pas t'attarder là-dessus. Et enfin, troisième et dernier point, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. En bas, on a des canapés, vous avez vu, hein ? Il n'y a pas de moqueurs dans l'église. Enfin, j'espère. Les moqueurs, c'est ceux qui sont méprisants, arrogants, qui cassent les autres. Le mot, c'est vraiment des gens qui cassent les autres, qui se prennent pour des personnes importantes et qui voient Dieu de haut. Tous ces amis que tu as au lycée, que tu as peut-être en fac, que tu as peut-être dans ton travail, qui se prennent pour les rois du monde, qui ont un avis sur tout, qui ont une langue de vipère et qui arrivent à mettre tout le monde en case. Ça, c'est les moqueurs. Et la Bible dit, ne va pas dans le canapé, te poser là pour dire, ah, vous avez déjà vu ce que c'est qu'un chrétien qui rigole à des blagues qui ne devraient pas rigoler ? Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous faites conversation à table dans un self quelque part, dans une entreprise, et tout le monde rit. Et comme tout le monde rigole, alors que c'est sur le compte de quelqu'un, vous savez que vous n'aimeriez pas qu'on dise ça de vous, mais vous voyez, vous cherchez tellement à ne pas dénoter, vous rigolez un peu bêtement là. Et Dieu n'est pas là-dedans. Et Dieu n'est pas là-dedans. Il y a une phrase que l'apôtre Paul dit, il dit « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi, ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Je vais le répéter pour que ça rentre dans ta tête. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des moments où, au Starbucks, avec tes amis, lorsque la conversation n'est plus ce qu'elle devrait être, tu devrais avoir un ressort sur ta chaise qui te pousse dehors. Parce que si c'est pour dire ça de cette personne, ou si c'est pour salir le nom de Dieu comme ils sont en train de le faire, il y a un moment où il doit y avoir une différence entre toi et le moqueur. Parce qu'il va plus loin, l'apôtre Paul, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme de sa propriété. » Tu sais, Dieu, il est naïf. Je fais exprès de le dire comme ça. Mais Dieu est naïf. Et quand, au dernier rassemblement de jeunesse, quand avec Mathieu Moreau ou récemment à l'église à un culte, tu as été touché et tu as dit « Dieu, viens dans mon cœur !» Il t'a cru. Il n'y a que Dieu pour te croire. Mais Dieu, il t'a cru. Il t'a pris au mot. Et tu sais pas quoi ? Il a fait de toi un enfant de Dieu. Il est venu par le Saint-Esprit et il a dit « J'accepte !» Mais ce qui est embêtant, c'est que tu obliges Dieu à te suivre dans cette conversation parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu obliges le temple du Saint-Esprit à rigoler de blagues ou de personnes dont tu ne devrais pas rigoler. Il n'y a aucun d'entre vous qui est peut-être dans le cas, parce qu'il y a un silence dans la salle. On écoute bien cela. Hein. Et cher, béni l'homme ou la femme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui, à la place, trouve son plaisir, verset 2, dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mais qui trouve son plaisir dans la joie de l'Éternel. Dieu veut pas que tu sois un chrétien rabat-joie frustré, toujours décalé. Oh, je sais ce qui se passe. Moi, ça m'est arrivé aussi. Des fois, vous savez pourquoi on s'arrête avec les méchants, pourquoi on s'assied avec les moqueurs? Parce qu'on a besoin d'amitié. Des fois, c'est pénible de manger seul au self. Vous avez peut-être en horreur. Moi, j'avais en horreur parce qu'à 14 ans, j'ai dû vraiment, mais presque acheter l'amitié des gens, quoi. À cette époque-là, c'était une période très, très difficile. On devait déménager, j'ai perdu tous mes amis, etc. Et comme vous êtes jeune, vous êtes un ado, vous avez besoin d'appartenir à un groupe, même plus tard, certains. Parce que vous avez pas reçu beaucoup d'amour de vos parents, etc. Dès que vous arrivez dans un groupe, vous essayez de vous faire accepter. Mais si tu te fais accepter aux dépens de ta foi, à qui tu cherches à plaire? Une fois, j'ai essayé, moi. C'est un peu ridicule, d'ailleurs, j'en ai un peu honte, mais... J'étais pas du tout tenté par le monde, hein, les choses, la cigarette, l'alcool, la drogue, le sexe, tout ça. Pff, non, j'étais quand même très protégé. Mais une fois, je me suis dit, allez, je n'ai jamais allé en boîte. Et puis une fois, j'ai une copine qui me dit, je fais mon anniversaire, bon, c'est une boîte de nuit, etc. Est-ce que tu viens? Je me suis dit, bon, je viens, mais je vais être différent. Hein. Et j'y suis allé. Je pensais que ça allait être pas terrible. Mais j'étais en deçà du réel. Je suis arrivé, j'ai passé une soirée, pardonnez-moi l'expression, pourrie. Parce que, en fait, j'arrive et, premièrement, on me sert de l'alcool. Je dis non, c'est bon. Après, il y a quelqu'un qui vient en me disant, tu veux une cigarette? Je dis non. Après, il y a une fille qui me dit, tu viens manger? Là, je dis un peu moins facilement, mais je dis non. Avec une petite tape du Saint-Esprit dans le dos qui m'a aidé à dire non. Au bilan, tu dis non à tout. Ben franchement, pourquoi t'es venu, quoi ? Et j'ai passé une soirée super longue. Et une des copines là, qui c'était l'anniversaire, elle me dit, mais Yvan, mais c'est quoi ? Mais lâche-toi un peu. Ben non, je peux pas me lâcher. Je peux pas me lâcher parce que je suis pas dans mon milieu. J'ai un sceau dans mon cœur, qui est le sceau du Saint-Esprit. Je suis désolé. Moi, j'appartiens pas au malin. Alors le Saint-Esprit, il m'empêche de me lâcher. Et par contre, je sais une chose, c'est que Dieu ne veut pas que je sois toujours en train de dire « Oh là là, les chrétiens, ils dépriment. » Dieu, il dit « Attends, je veux te bénir pour compenser ça. » Parce que celui qui ne marche pas là-dessus, je vais lui donner un cadeau. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Et là, je me fais, d'un côté, je dis « C'est super, Seigneur, ton cadeau. » Problème, je n'ai pas le droit de l'avoir. C'est comme un cadeau de Noël qui est génial, mais il n'y a jamais le jour de Noël. Parce que s'il faut attendre de méditer la loi de Dieu jour et nuit, vous n'êtes pas prêt d'ouvrir le cadeau. Hein. Qui parmi vous médite la loi de Dieu jour et nuit? Donc en gros, j'ai que des mauvais chrétiens devant moi alors. Eh ben, vous n'avez pas fini avec la culpabilité, mes amis. Hein. La loi de l'Éternel, c'est quoi? C'est le Pentateuque, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'était toutes les ordonnances que Dieu avait données à Moïse et avec l'application concrète dans la vie de personnes qui avaient des défauts comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob et comme les autres. Et la Bible dit, pardon, le psaume dit, méditez la loi de l'Éternel, la Torah en hébreu, c'est-à-dire médite les instructions de Dieu. Ça va plus loin que simplement répéter des versets. C'est rechercher en fait la volonté de Dieu. Le mot Torah peut se traduire en hébreu par le mot cible. C'est l'objectif de Dieu pour ta vie. Médite l'objectif de Dieu pour ta vie. Mais jour et nuit, oh, mais c'est impossible Seigneur. Moi je vois les femmes là, qui ont réussi à faire une réunion de prière, elles ont commencé à 22h, jusqu'à 5h du mat' elles sont restées à prier. Bon, il y en a certaines à la fin qui trichaient un petit peu parce que les paupières étaient un peu... On est tous limités. On ne peut pas méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi Dieu nous donne un cadeau qu'on n'a pas le droit d'ouvrir? Eh bien non, c'est parce que je me trompais sur le sens du mot méditer. En hébreu, c'est aga. Et aga, ça a un autre sens que d'être en train de lire ta Bible 24-24. Aga dit, en fait, tous les synonymes de ce mot, lire à voix basse, murmurer, marmonner, réfléchir à l'intérieur de ton cœur. Ah, j'aime ça. Mais ça, c'est possible. Parce que moi, ça m'arrive la nuit de me réveiller. Des fois, vous faites un rêve ou quelque chose, et vous réveillez, et puis vous dites, oh, Seigneur, que je ne fasse pas de bêtises là, dans ce domaine-là, ou Seigneur, je te prie pour un tel. Et en fait, c'est très intuitif. Il y a un verset qui dit dans le psaume 39, et c'est très intéressant parce que ça a été traduit aussi, enfin, c'est la même origine. Mon cœur brûlait dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi. Et là, c'est le mot aga, méditer. Mes pensées s'embrasaient en moi. En fait, ce que Dieu te dit, c'est heureux l'homme, la femme, qui médite, qui s'embrase, où sa petite bouillonne à l'intérieur de pensées qui sont tournées vers Dieu. Voilà ce que Dieu te demande simplement. Il dit, il y a une joie à ceux qui sont focalisés sur la cible, de plaire à Dieu. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'y arrive. Et j'y arrive très naturellement. Et ça, c'est la première racine spirituelle. Vous voyez cet arbre-là? Cet arbre, il n'est pas en forme, hein. Il n'est pas en forme parce qu'il a des petites racines, vous voyez. Alors, un arbre avec des petites racines, ça ne donne pas grand-chose. Mais je voudrais vous dire qu'il faudrait qu'une de ces racines soit méditer la parole de Dieu. Jour et nuit, c'est-à-dire, il prend sa Bible et il malaxe, il rumine un verset. Vous savez ce qui s'est passé cette semaine? Le chant Yahweh, là, vous connaissez? Et je l'avais en boucle dans ma tête, mais ça n'arrêtait pas, quoi. L'Éternel est mon berger. C'est un psaume, c'est le psaume 23. Et je me suis rendu compte que je l'avais en tête tout le temps. Mais c'est ça, méditer la Bible. Heureux l'homme qui médite. C'est-à-dire que mon cœur, en fait, il chantait un cantique 24-24 toute la semaine. C'est ça, méditer. C'est ça, tourner vos regards vers Dieu. C'est d'avoir focalisé vers votre cible. Je ne manquerai de rien. Ah, ouh, c'est bon ça. Ça, c'est la première racine. Ça peut être un chant, ça peut être un verset, un mot de Dieu. Malaxe-le. Laisse Dieu occuper tes pensées intérieures. Deuxième objectif. Qu'est-ce qu'il est dit verset d'après? Verset 3, deuxième racine. Vous voyez, de l'eau là. Il y a un moment où il en faut. Parce que si tu n'as pas d'eau, si tu n'as pas un courant d'eau, tu vas te sécher là. Il est mal parti cet arbre, parce que vous voyez, il a déjà commencé à devenir plus très vert. Et pourtant la Bible dit à propos de celui qui est béni, il est dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Vous voyez, mon rêve pour cet arbre là, si jamais je le mets près d'un courant d'eau, je ne sais pas s'il va passer, s'il passe. Waouh! Il y a la vidéo ou pas? Hugo, tu es un champion, je te fais confiance. Si vous avez un arbre qui est près d'un courant d'eau, son feuillage ne se flétrit point. Et du coup, vous allez être béni. Je ne sais pas si vous voyez ou pas, mais ce n'est pas grave. Vous avez compris l'idée. La deuxième racine, c'est l'eau. La première racine, c'est la parole de Dieu. La deuxième racine, c'est l'eau. C'est quoi l'eau ? Peleg en hébreu. En hébreu, Jésus, le psalmiste dit, il dit, ah là là, il y a des moments où ton cerveau va être cuit, où ta prière va tourner en rond, où tu vas faire des tours de piste. Alléluia, Seigneur, je te remercie, gloire à toi pour la journée que j'ai passée, et je te prie pour un tel qui est malade, guéri là. Seigneur, je te prie pour demain, je te dis gloire, alléluia. La louange, gloire, tu es grand, Seigneur. Puis au bout d'un moment, tu es bugué. Donc tu reprends ce que tu disais il y a déjà 10 minutes dans ta prière. C'est Seigneur, alléluia, gloire, je veux te voir dans ma vie. Et on n'a pas beaucoup de mots. Et c'est pour ça que Dieu dit, sois comme un arbre qui glisse une de ses racines dans un courant d'eau. Jacques disait que dans la maison de ses parents aux États-Unis, il y avait une haie avec des arbres tous identiques à la base, plantés la même année, venant de la même pépinière, des espèces de cyprès. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour faire une haie. Et puis, il est revenu quelque temps après pour s'occuper de cette maison qui avait vieilli, et il devait refaire la haie. Et en fait, le premier arbre séché, le deuxième arbre séché, le troisième arbre séché, le quatrième arbre resplendissant, magnifique, vert, en pleine forme, cinquième, sixième séché. Je me suis dit, c'est quoi le truc là ? Ils ont tous été plantés en même temps de la même pépinière. Ils ont pris, vous savez, une pelleteuse et ils ont recreusé pour faire la haie. Et au moment où ils ont creusé pour faire la haie, sec, 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 et au moment où ils arrivent sous l'arbre qui était très beau, ils voient un tout petit filet d'eau, une toute petite source intérieure qui descendait. Cet arbre était le seul qui avait accès à de l'eau fraîche. Peleg en hébreu, ça se traduit aussi par torrent. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, l'eau dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que suis-je à avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, je veux de l'eau jusqu'à la taille, je veux de l'eau jusqu'à nager dedans. Et c'est parler du Saint-Esprit. À un moment, c'est bien de ruminer tout le temps la parole de Dieu, c'est la première des racines. Mais la deuxième racine que tu as besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. 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 Le Saint-Esprit fait la différence parce que sinon, tu vas tourner en rond dans ton culte. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 14. L'apôtre Paul dit, je suis heureux parce que je parle en langue plus que vous tous. Est-ce que vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit ? Je sais que tout le monde ne l'est pas. Si vous n'êtes pas baptisés dans le Saint-Esprit, votre priorité devrait être de dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi jusqu'à déborder. Je veux une source, une moyenne source, une grande source, un torrent. Parce que ça, ça te fera tenir dans les moments où tous les autres se dessèchent. Et l'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous, car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière et mon intelligence n'intervient pas. Il y a un moment où il est bugué, le papa Paul, là. Il est fatigué, il a une grande journée. Moi, des fois, dans ma louange, je n'ai plus rien à dire en français, et c'est là où il faut dire, Seigneur, donne-moi te louer en d'autres langues. David Duplessis, un des apôtres qui a fait un réveil extraordinaire en Afrique du Sud, disait, mais des fois, je ne sais plus que faire. Je ne sais pas faire des choix dans ma vie. Je ne sais pas dans quel sens m'engager. Alors, plutôt que me stresser, réfléchir et galérer avec mon intelligence, je me pose et je loue Dieu en d'autres langues parce que le baptême dans Saint-Esprit, c'est un cadeau, c'est un trésor, c'est un fleuve et il faut l'utiliser. Et du coup, il dit, et je me rends compte, c'est David Duplessis qui dit, que souvent, dans mon parler en langue, dans le fait de passer du temps en langue, c'est comme si Dieu me donnait une idée ou bien Dieu agissait derrière mon dos et réglait le problème que je pensais impossible à régler. Parce qu'il est dit, quand je parle en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence n'intervient pas. Verset 14, verset 15. Verset 15, le verset d'après, il est dit, que ferais-je donc ? Je prierai avec mon esprit et je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai des louanges de Dieu avec mon esprit, donc par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Je suis pentecôtiste parce que je crois qu'il y a un moment où l'intelligence, ça ne suffit pas. Il y a un moment où Dieu veut bénir chacun d'entre vous en vous donnant le baptême Saint-Esprit pour vous réveiller spirituellement et pour vous faire du bien à un moment où vous ne pouvez pas gérer. C'est quand la dernière fois, là je parle à tous ceux qui sont baptisés en Saint-Esprit. Il y a combien de personnes ici? Il y a un tiers de la salle? La moitié de la salle? Ok, vous qui êtes baptisés en Saint-Esprit, c'est quand la dernière fois que vous avez chanté en langue? C'est quand la dernière fois que vous avez chanté en langue? Parce que c'est marqué dans la Bible, je chanterai des louanges de Dieu avec l'Esprit. De quand date la dernière fois où vous avez été rempli du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'un chant en langue parte de votre bouche? Déjà, ça fait pas mal de temps que vous n'avez pas parlé en langue, en vous concentrant vraiment sur Dieu. Alors, je fais un chant en langue. Eh bien, vous vous étonnez après que vous soyez sec. Regardez, je termine sur ce point. Cette deuxième racine, si tu la développes, regarde ce qui va se passer. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ton feuillage reste vert. Il porte du fruit en sa saison et tout ce qu'il fait, lui réussit. En fait, c'est même mieux que ça en hébreu. Il n'a plus qu'à cueillir le succès. Le Saint-Esprit bosse pour toi dans ton dos et toi, tu arrives, tu dis « Ah, merci, c'est cool, c'est fini. » Tu as juste à cueillir le succès. La différence avec quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit vous assiste. Il travaille pour vous. Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité. Le paraclète, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une force qui bouge quand j'ai plus de force, moi. Vous allez le faire, cette semaine, je veux dire. Ben, je vais voir, hein. Enfin, Dieu va voir surtout. Parce que si vous dites oui, eh ben, je vous demande de passer un temps en langue. Si vous n'êtes pas baptisé en Saint-Esprit, mais hurlez à Dieu, dites « Seigneur, il y a trois racines, comment ça fait que j'en ai qu'une, je n'ai pas ». Et la Bible dit que, à combien plus forte raison, vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, mauvais comme vous êtes pourtant, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Allez, on se quitte avec une dernière racine. Regardez le verset 4 et 5. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Dans l'assemblée des justes. En hébreu, c'est Heda. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La troisième racine que tu as besoin, un, méditer la parole de Dieu, murmurer, chanter des petits cantiques tout le temps, te faire du bien, avoir tes idées vers Dieu, chercher le Saint-Esprit, aspirer aux choses spirituelles, et troisièmement, donc dans ta communion avec Dieu, et troisièmement, autant au début, il ne fallait pas traîner avec les moqueurs, par contre, à la fin, il faut traîner avec les gens qui sont justes. Combien de temps tu passes à l'église? Je veux dire, dans une église. Peut-être tu es de passage. Alors sois attaché à ton église. Parce qu'il est dit, dans l'assemblée des justes, l'assemblée, c'est dans l'attachement des justes. L'attachement des justes. Ok, 2 heures, tu fais ton culte. À Créteil, 2 heures, parce qu'on va dire 1h30 de durée du culte. Créteil, c'est 1h30 TTC. Vu que tu n'es pas arrivé en avance, on ne compte pas avant. Et que tu traînes 30 minutes après, on va compter 2 heures. Tout compris, d'accord? 2 heures, multiplié par 52 semaines, d'accord? Non, attendez, non, vous avez triché. Parce que tu as eu la grippe. Une fois un rhume qui t'a mis KO, une angine et je ne sais pas quoi, l'enfant malade, et tu as déjà raté 5 ou 6 cultes déjà à cause de la maladie. Plus. Tu te rappelles la neige là? Ça dérapait, machin, dehors, tu n'es pas allé, il faisait trop froid, c'était l'horreur. Donc on en fait encore sauter 2 ou 3. Puis après, le jour où tu étais de mariage et machin, et tu ne pouvais pas te lever, hein ? Plus les vacances, parce que quand tu étais en vacances, ton réveil ne sonnait pas, etc. Donc le culte, c'était trop tôt. Puis de toute manière, tu ne savais pas où était l'église de la Baule, donc tu n'es pas allé. Bon, bilan. Bref, total, allez, de 52, on passe au mieux à 40. Multiplié par 2 heures, 80 heures. J'ai essayé d'être honnête, je vous ai enlevé les heures où on dort. Je dis, sur un total de 365 jours, mettons que tu sois éclairé pendant 14 heures sur 24. Je t'ai laissé 10 heures de sommeil, c'est pas mal, hein, j'ai fait un gros dormeur. 5400 heures, je fais un petit rapport mathématique, 80 heures dans l'Assemblée des Justes sur 5400. Ça fait pas beaucoup. Ça fait exactement 1,48%. On passe, si on fait le culte, 1,48% de notre temps dans l'Assemblée des Justes. C'est ce que j'appelle une racine de 1,48 cm. Vous avez une racine de 1,48 cm. C'est normal qu'après, vous vous dites, c'est bizarre, je ne me sens pas très fort, pasteur, spirituellement, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Attends, mais je ne vais pas prier pour toi, là où tu pourrais quand même venir déjà mettre ta racine avec les autres. Vous avez déjà vu un... Est-ce qu'il y a un arbre qui résiste tout seul? Est-ce que vous avez déjà vu un arbre, juste au milieu de nulle part, un arbre tout seul? Il y en a. Mais ils ont tous la même caractéristique, c'est que des gros. C'est que des gros gros. Moi, je me rappelle un champ, une petite colline en Bretagne. Il y a un chêne, un vieux, un gros, un big gros chêne. Au milieu de nulle part, il est là. On se demande qui c'est qui l'a mis là. Je pense qu'un jour, il y avait peut-être d'autres arbres avec lui, mais c'est le seul qui a résisté. Apparemment, ça a été un massacre dans ce coin-là. Mais lui, il est resté. Et si vous êtes un gros chêne, vous ne risquez pas trop de problèmes, même si vous n'avez pas une assemblée des justes chênes à côté de vous. Pourquoi ? Parce que votre racine est tellement profonde dans un courant d'eau, et vous méditez tellement le sol et la parole, que vous tenez bon avec vos deux grosses racines, des racines de comme ça, c'est bon. Donc une tempête vient, vous résistez. Mais le chêne, le vieux chêne là, il fait tomber des glands, des petits glands, chaque année. Mais je me dis, ça veut dire que le taux de survie des petits glands, c'est zéro. Chaque année. Il y a des centaines de petits glands qui ont la chance de tomber dans de la terre. Les gars, ils sèchent direct. Ils commencent à sortir. Pas de racines. Un peu coup de vent, ils sont comme la paille, embarqués. Première tempête, première galère, embarqués. Ils sont arrivés à Dream Team, ils ont dit « Alléluia, ils ont eu le plus, Jésus, je t'aime !» 2 mois plus tard, embarqué. Et là, je me dis, en tant que parent, là je vais faire 2 différences. Soit vous êtes un chêne, soit vous êtes un gland. Je vais parler de moi-même. Mon papa est un chêne. Je veux dire, mon papa a eu des racines énormes parce que quand il était jeune, il allait à Ouagadougou, au moment du réveil de Ouaga, ils ont vu des miracles, ils ont vu des guérisons, ils ont vu, c'est juste pour la musique des miracles en fait, ils ont vu des personnes qui revenaient avec des béquilles tellement ils étaient délivrés, donc ils ramenaient les béquilles en disant « j'ai plus besoin, je suis délivré, 50 ans en béquille, terminé, Jésus m'a guéri ». Mon père dit « c'était hallucinant, on ne savait même plus que Dieu guérissait pas de temps en temps ». Il voyait, dès qu'il y avait un aveugle, dingue, il était guéri direct. Il y avait une présence de Dieu de folie. Donc mon papa, ça, quand vous vivez ça, plus vos expériences et tout, vous avez une racine spirituelle comme ça. Hein, franchement, est-ce que mon père a besoin d'aller à une réunion de prière aujourd'hui? Non. Je pense qu'il garderait la foi même sans sa réunion de prière. Il n'est pas tellement en danger. Il pourrait être tout seul sur une colline, il tiendrait bon. Par contre, moi, je suis un petit gland. Et même si je me crois très fort et très bon quand j'étais plus jeune et ado, eh bien, mon père dit, la réunion de prière, c'est pas discutable. Tu y vas, c'est tout. Papa, tout, je suis crevé, j'ai un DS de maths demain. Et tout. Non, non, la réunion de prière, c'est la réunion de prière, on y va. Et en fait, je savais pas que le chêne, c'était pas pour lui qu'il allait à la réunion. C'était pour le petit gland. Parce que moi, j'en avais besoin, de retrouver mes amis là-bas. C'était pas qu'une question de parole de Dieu. C'était aussi, et là, l'assemblée des justes. Enfin, ils étaient à peu près justes, mes collègues. Mais c'est déjà beaucoup mieux que les moqueurs d'à côté. Et du coup, ça m'a permis de mettre des racines, d'avoir des amis. Et dans notre groupe de jeunes, aujourd'hui, il y en a 9 qui sont pasteurs. Parce que Dieu avait mis plein de petits glands ensemble, ça fait une pépinière de chêne. Et vous voyez, on a tenu parce qu'on était ensemble. Alors moi, je vous dis, en tant que parent, je suis très content que tu puisses te permettre de faire que 2 heures et 1,48% de ton temps à l'église. Mais tu donnes aucune chance à tes enfants de s'en sortir. Parce que eux, avec 1,48%, ils se font croquer quand il y a un méchant, un pécheur ou un moqueur qui passe chez eux. Parce qu'ils n'ont pas de racines. Alors toi qui es plus jeune, est-ce que tu es prêt? Oh, j'ai presque ça ne sert à rien de prêcher parce que jeudi soir, dans ce lieu, j'ai eu un choc. Il y avait sur 100 personnes, il y en avait 50 qui étaient entre 15 et 25 ans. C'est la première fois que je vois ça dans une église. Et là, j'ai eu un espoir énorme. Parce que je me suis dit, c'est des glands, mais des glands intelligents ici. Parce qu'ils ont compris que s'ils sont ensemble, ils vont tenir beaucoup plus que s'ils sont seuls, chacun sur leur colline, à croire qu'ils vont pouvoir tenir. Quand vous allez à Dream Team, quand vous faites l'effort, vous les parents, d'amener vos jeunes, là, peut-être juste après, au groupe d'ados, là, le groupe des collégiens. Franchement, est-ce qu'il y a un parent qui a envie de revenir tout à l'heure à 17h ou à 18h rechercher sa fille qui a 12 ans? Non! Vous n'avez pas envie de venir. Mais si vous le faites, c'est pour Dieu. Et vous savez pas quoi? Dieu le voit. Et il se passe quelque chose, parce que Dieu connaît la voix des justes. Et le mot en hébreu, c'est yada. Et yada. Et c'est, vous, en français, c'est nul le mot, on a mis connaître. Des fois, les traductions, c'est nul. Par exemple, si vous voulez traduire en anglais, j'adore, vous dites quoi? Ben, vous pouvez dire aussi adore. Donc en fait, vous avez plein de mots en anglais, mais nous, on a un mot. Adore. Mais eux, ils ont plein de mots. Et en hébreu, le mot connaître, il y a plein de sens là-dedans. Et yada, ça veut dire beaucoup plus que simplement « Salut, on se connaît ?» C'est connaître au sens de « on fusionne ». C'est une connaissance hyper profonde, intime. C'est deux personnes qui construisent ensemble. C'est le mot qui est utilisé lorsque c'est un couple dans la Bible. Ça veut dire que Dieu rentre à l'intérieur de la vie du juste, fusionne avec lui, et Dieu reconnaît et il se dit « ça, c'est mon arbre ». Et on n'y touchera pas. La tempête va venir, les autres vont être embarqués comme de la paille, mais celle-là, t'y touches pas. Celui-là, c'est mon enfant, je l'ai scellé, il a le Saint-Esprit à l'intérieur, t'y touches pas. Il y a trois racines, tu as la racine de dire « voilà, je médite la parole », tu as la racine de dire « je vais être rempli du Saint-Esprit », et tu as la racine de l'Assemblée des Justes. Sauf que tu en as une qui est plus courte que l'autre, alors c'est celle-là qu'il faut développer. On va fermer les yeux. Quelle est ta racine la plus courte? C'est quoi là où tu as un peu de soucis? Aucun d'entre nous est parfait dans ces trois domaines. Et Dieu te dit, je ne dis pas ça pour te faire la morale, il dit je dis parce qu'il y a une bénédiction supplémentaire, il y a une échère de Dieu que Dieu veut donner. Heureux l'homme, heureuse la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il n'est pas ainsi des méchants, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Est-ce que tu veux t'accrocher à Dieu? Enraciné, 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 enraciné. Alléluia. 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 Je prie pour toi. On va se quitter dans quelques instants, mais je veux prier pour toi. À toi qui dis, waouh, il y a quelques jours, j'ai vécu quelque chose avec Dieu. Peut-être c'était un de ces dimanches derniers. Il y a un moment où tu as été touché par Dieu. Il y avait une présence de Dieu et tu as commencé à dire des choses à Dieu que tu n'avais jamais dites avant. Peut-être c'était un week-end ou quelque chose qui s'est passé et ta relation avec Dieu, wow, il y a quelque chose qui était plus fort que d'habitude. Et Dieu te dit, enracine-toi maintenant. Parce que le vent va souffler, la pluie va tomber, mais si tu t'enracines, tu résisteras. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever? Je ne te demanderai pas d'avancer vers le devant, je te demanderai simplement de te lever à ta place. Et j'ai à cœur de prier pour toi. Seigneur Jésus. Je suis touché parce que d'habitude, le pasteur il doit insister beaucoup pour que la première personne se lève. Et là, c'est juste spontanément que vous vous levez et je suis très heureux parce que le Saint-Esprit travaille là où moi, je ne peux pas travailler. Le Saint-Esprit travaille et va à l'intérieur des cœurs là où moi, je ne me permettrai jamais d'aller. Il est un courant d'eau, il est un fleuve dans lequel Dieu veut que tu te plonges. Il y a une dimension de la vie de l'Esprit, tu n'as même pas goûté encore, tu ne sais même pas tellement c'est bon. Il est des chants dans la nuit que Dieu veut te donner, tu ne sais même pas d'où ils viennent. Il est des temps à l'église où il y aura une telle proximité de Dieu, tu dirais, on a l'impression que Dieu fusionne avec nous, que Dieu yada avec nous. Alléluia. Oh, soyez bénis. Oh, et cher de Dieu, enracine. Seigneur, bénis. Oh, que la bénédiction de Dieu, celle que psalmiste a annoncée, puisse tomber maintenant sur une personne qui est debout. Alléluia. 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 Que l'enracinement de Dieu, que ta racine descende. Alléluia. Descends dans la parole, descends dans la présence du Saint-Esprit, descends dans la proximité de tes frères et sœurs. Quelque chose qui se passe dans ce lieu. Il y a quelque chose qui descend sur toi qui est debout. Parce que Dieu dit, je connais la voix des justes. Je sonde les cœurs et les reins et je vois qui veut me suivre. Seigneur, viens ranimer le feu que tu avais mis en moi. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. On peut tous se lever ensemble. Manifeste ta présence.
Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Sois seul, peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et couvre-moi de ta puissance. Réveille-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Réveille-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, pour m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Fais-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Fais-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Sois seul, peux tout changer. Oh, viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Ta présence et convainc-moi de ta puissance. Réveille-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Réveille-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Seigneur, couvre-moi, Seigneur, change mon cœur, Jésus, viens, Seigneur, oh, ouvre mes yeux, manifeste ta présence, couvre-moi de ta puissance. Fais-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et couvre-moi de ta puissance. Levez-moi de ta sainteté, tu prends-moi par ta main.